Ensuite, nous avons couvert les trois premiers chapitres de la Bible, et puis nous avons vu du chapitre 4 au chapitre 11, essentiellement des grands événements. Cette période des 11 premiers chapitres couvre une période de 2000 ans qui s'intéresse à toute la race humaine. Et qui parle d'événements, essentiellement, comme bien sûr la création, la chute de l'homme, le péché originel, le déluge, la fameuse tour de Babel, la naissance des nations. J'ai amené pour Élie un document sur la table des nations, que vous pourriez aussi photocopier ou emprunter. Le reste de la Genèse, il y a 50 chapitres dans la Genèse, donc les chapitres 12 à 50, en fait, ne vont couvrir qu'une période de 300 ans. Et ça va se concentrer sur la famille d'Abraham. On va voir un peu, c'est là où on entend parler de ce qu'on appelle les patriarches. Et cette partie, ces 39 chapitres, parle davantage de personnes que de grands événements. Cette période remonte à près de 2000 ans avant le Christ. Nous sommes en 2000 ans de l'ère chrétienne, 2003, pardon. Et on pourrait penser que ces histoires anciennes n'ont plus beaucoup d'intérêt pour nous, vivant à l'aube du 21e siècle. Et pourtant, nous savons, des passages dans la Bible nous disent que ces choses, ces événements sont arrivés et ont été rapportés par l'intermédiaire de l'Esprit-Saint et des auteurs de ces livres pour notre bénéfice, pour notre instruction. Il est plus important de lire l'Ancien Testament que de lire Libération ou Le Monde ou L'Express pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul l'énonce clairement, d'ailleurs, dans un passage de 1 Corinthiens 10. Si vous voulez regarder 1 Corinthiens 10, souligner, c'est... Encore une fois, n'hésitez pas, sauf si c'est la Bible qui nous a... Si vous avez une Bible qui vous appartient, n'hésitez pas à prendre un crayon, des marqueurs, et souligner, faire des remarques sur le texte. Dans 1 Corinthiens 10... Paul nous explique qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants des faits qui se sont passés sous la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël et de leur pérégrination en terre promise ou dans le désert d'abord. Il explique à partir du verset 6 que les histoires qui racontent l'errance du peuple juif dans le désert, leur désobéissance, ce sont là des exemples, c'est page 194 dans la Nouvelle Bible, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, c'est rapporté pour que ça serve d'exemple. Il le confirme un peu plus loin, verset 11, après avoir déclaré qu'il ne fallait pas rouspéter comme le peuple d'Israël avait rouspété. Ne murmurez pas, c'est ce que veut dire le mot en grec, gougosmai, c'est les gens qui rouspètent. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Encore une fois, verset 11, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Et puis il continue, ainsi prenez donc garde que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous avons dans l'Ancien Testament des leçons vivantes pour aujourd'hui. Et personnellement, l'histoire d'Abraham a eu un impact déterminant dans ma vie. Et quand j'ai décidé de quitter mon métier dans l'informatique aux États-Unis, un événement déterminant, ça a été un sermon que j'ai entendu sur l'obéissance d'Abraham qui avait quitté sa nation, qui était parti sans savoir où il allait. Et j'étais à une époque où je me demandais s'il était sage, à mon âge, avec 40 ans, de quitter ma profession, mon environnement, la maison que nous avions commencé à acheter, avec une femme et deux enfants en bas âge. Ma famille en France trouvait que c'était complètement fou, qu'on m'avait lavé le crâne, c'était du bourrage de crâne que j'avais reçu. Et il partit sans savoir où il allait, c'est dans Hébreux 11.8. J'ai entendu un message qui décrivait un peu les symptômes que je ressentais en fait. L'idée que j'aimais beaucoup mon travail, mais je sentais qu'il y avait des choses plus importantes que le Seigneur voulait que je fasse. J'y pensais souvent, c'était une idée que je ne pouvais pas mettre de côté complètement. Et ce pasteur à la radio avait fait une étude sur ce passage et sur la vie d'Abraham, et il terminait en disant: si c'est ce que vous ressentez, soyez obéissant au Seigneur, ne résistez pas à son appel, en vous demandant le reste de votre vie, qu'est-ce qui serait passé si j'étais parti. Et il disait: si vous sentez appelé à faire quelque chose, allez-y, faites-le, le Seigneur peut fermer les portes, il peut vous rediriger, mais surtout, ne gardez pas cette vision dans votre cœur toute votre vie. Et ça, c'était un élément déterminant, l'exemple d'Abraham. Alors bien sûr, je vous rassure, je ne me suis pas du tout pris pour Abraham, et qu'à partir de moi, une multitude allait naître, mais j'ai eu cet exemple qui m'a encouragé à faire le pas. Et ce qui montre que ce vieux testament, cet ancien testament, il peut être dangereux pour votre vie, au sens de, il peut vous amener à faire des choses radicales. Et ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. L'ancien comme le nouveau, c'est pas séparé. On n'est pas seulement des chrétiens du Nouveau Testament, on est des chrétiens de toute la Bible. L'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ça, c'est en 2 Chroniques 16-9, c'était aussi un verset. Il est là, il recherche quelqu'un qui veut faire sa volonté, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent vraiment faire sa volonté. Et même si on a décidé un jour de faire sa volonté, ça ne veut pas dire que le lendemain on sera toujours prêt à faire sa volonté, c'est un renouvellement d'un engagement. Mais il faut savoir que Dieu est là, et qu'il nous considère avec plein de bienveillance. Il y a un très beau verset dans un psaume qui dit, le psaume 147, je crois, verset 11, qui dit: l'Éternel agrée ceux qui le craignent, ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Je crois que je l'ai cité la semaine dernière. C'est l'idée que l'Éternel accepte avec joie, il reçoit avec empressement, avec sourire, non seulement ceux qui le respectent, qui ont cette crainte de lui-même, mais il reçoit ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Et souvent, nous avons des peurs qui nous guident et nous refusons de croire que Dieu veut notre bien. Et Dieu est là à chercher des gens qui s'attendent à ce que Dieu les bénisse. Et les gens que Dieu bénit le plus, ce sont ceux qui ont foi en l'amour de Christ, en l'amour de Dieu, qui ont la conviction que Dieu n'est pas là pour les juger et les attraper à la première incartade, au premier faux pas, mais qu'au contraire, il veut les bénir, il veut donner sa riche bénédiction sur leur vie. Il les cherche, il les recherche. Alors, un passage clé dans notre passage ce soir, c'est 39 versets. Chapitre, c'est bien sûr la Genèse 12, le premier, le départ. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Un peu plus loin, on voit verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et on peut penser que Abraham obéissait au doigt et à l'œil tout de suite. En fait, lorsqu'on on regarde dans le Nouveau Testament, encore une fois la corrélation entre l'Ancien et le Nouveau, le diacre Étienne, lorsqu'il raconte l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, il explique dans Actes 7, versets 2 et suivants, que d'abord, Abraham n'a fait que remonter la rivière, l'Euphrate, il est allé à Haran. Et c'est seulement à la mort de son père qu'il a vraiment obéi à Dieu, qu'il est allé dans le pays de Canaan, dans ce que Dieu appelait lui avait promis, ce qu'on appelle la terre promise. Donc c'est intéressant de voir toute la Bible pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et les versets qui suivent, c'est ce qu'on appelle des fois l'alliance d'Abraham ou l'alliance abrahamique, où Dieu lui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce qui est intéressant lorsqu'on lit cela, c'est de réaliser qu'en fait, Dieu promet à sens unique. Il ne demande pas à Abraham de bien se comporter pour pouvoir recevoir ses bénédictions. C'est une alliance inconditionnelle. C'est une alliance où Abraham n'a rien à faire. Certes, Dieu lui a demandé de partir, mais ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est pas « si tu pars, je vais te bénir », parce que Dieu lui demande de partir et il lui donne ses promesses. Trois choses majeures dans ses promesses. Dans sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est une chose qui montre l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il a certes choisi la descendance d'Abraham pour faire arriver le Messie. On disait qu'il fallait bien que Dieu, s'il se faisait homme, atterrisse dans une race, dans un lieu. Il a choisi la descendance d'Abraham. Mais c'était pas simplement parce qu'il voulait bénir le peuple juif. Il veut bénir toutes les nations de la terre, c'est-à-dire tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Ça, c'est la grande promesse. On verra que ça sortissait d'une promesse d'un territoire. Le pays, la promesse va revenir à plusieurs moments. Et aussi une promesse contre ceux qui s'opposeraient à ce peuple de Dieu, au dessein de Dieu. Au chapitre 14, on reviendra, il y a un dénommé Kedorlaomer qui régnait sur un groupe de principautés, de petits royaumes, et qui extorquait des revenus de ses autres petits royaumes, et à un moment donné, il se rebelle contre lui. Et il y a quatre rois qui vont faire donc l'alliance des rois avec Kedorlaomer. C'est un nom un peu bizarre, on peut l'appeler Kedor ou Kador. C'était le Kador qui faisait régner la loi. Il va faire la guerre à cinq autres rois qui se sont révoltés contre lui. Et là, on va voir qu'en fait, Abraham va aller mater la guerre. Il va aller mater Kedorlaomer parce que parmi les rois qui sont en rébellion, il y a le roi de Sodome où habite le neveu de Lot, le neveu d'Abraham qui s'appelle Lot. Mais une chose qui est importante à réaliser, c'est qu'en fait, Abraham était un homme d'une grande richesse, d'une grande influence. On lit dans un passage qu'il avait 318 soldats à sa solde, à son service. Il, après avoir remporté la victoire et libéré son fils au chêne de Mamré, c'est au verset 14 qu'il est question de 318 soldats, il rencontre un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Melchisédek. Melchisédek, ça veut dire en hébreu le roi de justice. Abraham va lui payer la dîme. C'est le verset 20 du chapitre 14. Et il est dit que dans d'autres passages de la Bible, en fait, s'il n'y avait que ce passage de la Bible, on ne parlerait sans doute jamais de Melchisédek. Mais dans le psaume 110, Dieu parlant à Jésus, à son fils, dit « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». Dans le livre aux Hébreux, il est souvent question de la prêtrise, la façon dont ce Melchisédek était un prêtre qui était beaucoup supérieur à la prêtrise des hommes qui était exercée par les descendants d'Aaron, la prêtrise lévitique. Et dans le passage de Hébreux, il est dit qu'en fait, si Lévi, qui descendait d'Abraham, était quelque part dans les reins déjà d'Abraham, il avait payé la dîme à Melchisédek, dont le nom veut dire roi de justice, qui était devenu aussi le roi de Salem, qui est la future Jérusalem. Quelque part, Lévi et toute la prêtrise de l'Ancien Testament reconnaissaient un prêtre supérieur en Melchisédek. Bien sûr, ce personnage, on va parler beaucoup ce soir de préfiguration ou de type. Ça vient du mot grec tupos, qui veut dire une empreinte, quelque chose à laquelle on reconnaît quelque chose qui doit arriver. En français, on a le terme d'un prototype. Par exemple, une voiture automobile est un prototype. C'est un modèle d'une voiture qui va sortir plus tard. C'est le premier modèle d'une voiture qui va sortir dans quelques années, qui est souvent utilisée en compétition automobile. Et ce Melchisédek, bien sûr, il est à la fois roi et grand prêtre. Et dans la Bible, il n'y a que trois personnages qui ont été à la fois roi et grand prêtre. Il y a eu Melchisédek, il y a eu qui d'autre? Jésus, le Messie, qui était à la fois le roi des rois, et qui est le grand prêtre souverain. Et quel est le troisième personnage qui est à la fois roi et grand prêtre dans la Bible? Roi et prêtre, plutôt. Eh bien, c'est nous. C'est le corps de Christ. Dans le Nouveau Testament, il est question... 1 Pierre 2,9 nous dit que nous, les chrétiens, nous, les gens qui sont nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, nous sommes un sacerdoce royal. Alors, c'est un terme qui peut être un peu mystérieux, un sacerdoce, c'est-à-dire une prêtrise royale. Nous sommes à la fois prêtre et à la fois roi. Nous sommes appelés, le prêtre, son rôle, c'était de mettre en relation Dieu avec l'homme, l'homme avec Dieu. Et le roi, c'était de gouverner. Nous sommes appelés à être des témoins, à mettre en relation les hommes avec Dieu et Dieu avec les hommes. Nous pouvons intercéder pour eux, nous pouvons leur parler de Dieu. Il est toujours important de parler à Dieu d'abord des hommes avant de parler de ces mêmes hommes, à ces mêmes hommes de Dieu. Préparer le témoignage par la prière. Et puis, nous sommes appelés aussi à régner avec Dieu lors de son millénium sur la terre, du royaume de 1000 ans, et même ultérieurement. Alors, est-ce que ce Melchisédek qu'Abraham avait rencontré après sa victoire sur les rois, c'était Jésus? Peut-être pas, parce que il est dit dans Hébreu que la prêtrise de Jésus était à la ressemblance de celle de Melchisédek. Les rabbins disaient que Melchisédek, c'était peut-être Shem, un des trois fils de Noé qui était encore en vie. La seule question, le problème, c'est qu'en fait, il est dit qu'on ne connaît pas la généalogie de Melchisédek. Il n'a pas de naissance ni de fin. Et c'est en cela qu'il est comme Christ. Il est à la fois, il est éternel. Et or, on connaît la généalogie de Shem, ce fils de Noé. Donc, ce Melchisédek, il est important de savoir qui il est, parce que quand on tombe sur les références dans le Nouveau Testament. Si on n'a pas cet arrière-plan, on est perdu. En fait, Abraham avait rencontré ce Melchisédek. Et si vous vous souvenez, Jésus avait dit qu'il avait rencontré Abraham l'évangile de Jean. Il disait avant, Abraham s'est réjoui du jour où il m'a vu. Et certains pensent que, en fait, c'était vraiment Jésus sous la forme de Melchisédek qui avait rencontré Abraham. Un autre passage clé, c'est le chapitre 15, où on va voir encore une fois comment Dieu va signer le traité d'alliance avec Abraham et sa descendance. Aujourd'hui, pour signer un contrat, on a un papier avec des carbones dessous, et on signe, et on a trois exemplaires. Il y en a un qui est remis à l'acheteur, l'autre au vendeur, l'autre qui peut aller chez un avocat. Ou alors maintenant, sur Internet, c'est je quitte, je suis d'accord, ou j'annule. Est-ce que vous êtes d'accord pour télécharger ce logiciel et vous engager à payer la somme? Maintenant, c'est simplement par une signature. À l'époque, il y avait une façon plus graphique, plus spectaculaire. Les deux parties qui s'engageaient prenaient un sacrifice d'animal. Là, on verra qu'il y a plusieurs animaux. Ils le coupaient en deux et ils marchaient. Il passait en marchant entre les deux morceaux en décrivant une figure de 8. Il tournait autour des morceaux du sacrifice en répétant à haute voix les stipulations du contrat. Ce serait drôle si quand vous téléchargiez, vous falliez passer entre l'ordinateur et l'unité centrale et l'écran en répétant les noms. Et puis, ça c'était pour indiquer que la rupture du contrat, elle était susceptible d'avoir le même effet que ces animaux qui avaient été coupés en deux. C'était un contrat basé sur la vie. On s'engageait à vie sur cet agrément. Et ce qui est surprenant dans le chapitre 15, c'est que Dieu, il va se livrer avec Abraham à ce rituel de contrat, d'alliance, mais il commence par endormir Abraham. Et il va se livrer à la cérémonie sous la forme de feu et de fumée. Il est question d'une fournaise fumante et de flammes. Et là encore, on voit que Abraham, il n'a rien à faire vraiment dans le contrat. C'est Dieu qui va signer ce contrat. Encore une fois, on reconnaît une alliance solennelle et unilatérale. L'alliance, encore une fois, c'est la terre qui est promise aux descendants de la mer. Verset 18 du chapitre 15, jusqu'à l'Euphrate. C'est beaucoup plus grand que Dieu a promis plus à Israël qu'Israël n'a jamais possédé. Et sans doute, ce ne sera pas dans quelques mois, si Bush déclare la guerre, ce sera dans le royaume du millénium que Israël possédera enfin toute la terre qui lui est promise par Dieu. Il est indiqué aussi que les descendants d'Abraham seront en Égypte, c'est verset 13, pendant 400 ans. On sait que par un autre passage qu'il s'est passé 430 ans entre le départ d'Égypte et l'entrée en terre promise. Et ça donne, quelque part, ça donne 400 ans à Satan pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans cette terre promise. Et toute l'histoire du livre de l'Exode, des Nombres, qui montre comment le peuple de Dieu a erré dans le désert, quelque part c'est encore la volonté de Satan d'empêcher que les promesses de Dieu s'accomplissent, sachant que avec toute cette promesse de terre promise, il y a aussi la promesse de celui de la semence de la femme qui allait écraser la tête de Satan. Toujours cet antisémitisme, cette lutte contre le peuple juif, peuple élu par Dieu, c'est la main de Satan qui sait que c'est par ce peuple juif que va venir sa destruction à lui. Et puis, il est dit aussi qu'ils retourneront en terre promise avec de grandes richesses. On sait que le peuple égyptien leur a remis des richesses pour laissés partir après les fléaux d'Égypte que l'on verra dans le livre de l'Exode. Cette alliance, elle est renouvelée, elle est confirmée par des serments dans le chapitre 22, dans le chapitre 26, aux descendants directs d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les deux patriarches suivants. Et ce qui est intéressant encore, c'est de remarquer que cette alliance a été confirmée auprès de ces deux hommes, alors qu'eux-mêmes ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Pour montrer encore une fois que elle n'est pas basée sur le mérite, sur la perfection morale, l'amour de l'acceptation divine, parce qu'ils avaient mérité cette alliance. C'est toujours ce principe de Dieu qui aime et qui veut donner plus qu'il ne veut recevoir. Mais ça, on le verra, ça se développe bien sûr dans tout le Nouveau Testament, ce qu'on est en train d'étudier le dimanche. Le livre de Paul aux Romains l'explique en détail. Cette alliance, elle est même confirmée dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 6. L'alliance est éternelle, elle n'est pas simplement pour l'Ancien Testament. Et en fait, toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir, auxquelles nous pouvons prétendre, elles viennent de cette alliance faite par Dieu à Abraham. Dans la Genèse 17, Abraham, dont le nom veut dire « père exalté », on avait plaisanté qu'en fait ça devait être un nom difficile à porter parce que jusqu'à l'âge de 100 ans, il n'a pas eu d'enfant. Et le nom d'Abraham, avec lequel Dieu l'a rebaptisé, ça voulait dire « père d'une multitude ». La différence entre Abraham et Abraham, c'est le « h » en hébreu, le « he » qui est comme un souffle, qui est souvent le nom qui représente Dieu. Certains voient aussi comme un souffle, c'est l'ajout, l'apport du Saint-Esprit qui va transformer la vie d'Abraham. Il va être le père de beaucoup de nations, la circoncision va être instaurée. Sa femme, Sarai, qui veut dire une femme princière, va se transformer en Sarah, aussi avec le H. Ça va être la princesse au sens fort, et on voit la bénédiction en fait sur ce couple que Dieu a choisi. Une petite parenthèse sur la circoncision, donc l'ablation du prépuce sur des nouveau-nés, qui est prescrite pour le 8e jour. C'est pas prescrit pour le 7e ni le 9e jour. Et on pourrait passer outre, mais ce qui est intéressant, c'est que la science moderne a découvert que dans le développement des nouveau-nés, c'est exactement au 8e jour que les facteurs coagulants du sang sont au maximum de leur densité. Du 7e au 8e jour, ça passe de 100 à 120% et ça retombe tout de suite à 100%. C'est le meilleur moment choisi pour la cicatrisation. Il y a des vitamines K qui se mettent en place. Et ça, il a fallu les dernières découvertes de notre période de vie, dans les dernières 50 ans, pour que la science trouve qu'en fait, c'était une bonne idée de faire ça le 8e jour. On s'émerveille toujours de ce que la Bible nous rapporte. On devrait aussi s'émerveiller de ce que la Bible ne nous rapporte pas. Vous vous souvenez que Moïse avait été élevé à la cour de l'empereur d'Égypte, ou la cour du Pharaon. Il avait été recueilli par sa fille. Il avait été élevé dans la sagesse des Égyptiens. Et lui qui écrit les 5 premiers livres de la Bible, on aurait pu penser qu'il fasse des ajouts, qu'il incorpore des choses qu'il avait apprises de la sagesse des Égyptiens. On a retrouvé des documents médicaux qui date de 1300 ans avant Jésus-Christ, sur des papyrus égyptiens. Et voilà quelques exemples de remèdes. Si vous avez une épine ou une écharde dans votre doigt ou sous votre pied, pour vous soigner, il faut écraser un ver de terre et mettre le jus dessus. Et puis, une chose qui est très importante, c'est de mettre de la crotte d'âne. Et ça va vous guérir. Si vous perdez vos cheveux, Si j'avais su ça, j'aurais pu appliquer 6 graisses de cheval, 6 graisses d'animaux. Il faut du cheval, de l'hippopotame, du crocodile, du chat, du serpent et du bouquetin. Il les faut ensemble. Et si vous avez ces 6 graisses, vos cheveux vont être merveilleux. Et donc on voit qu'en fait la médecine, c'était des remèdes de charlatans, c'était des traditions sans fondement scientifique. Mais ce qui est formidable, c'est de réaliser qu'en fait il n'y a pas une seule de ces choses qui est venue s'insérer dans la Bible. Alors que dans les récits des vieux écrits sacrés, il y a des tas de choses de ce genre. La Bible, par contre, nous explique des choses qu'on ne connaissait pas, mais si vous voulez faire la circoncision, faites-le le 8e jour. Un conseil de Dieu. Vous vous souvenez que lorsque Dieu avait promis un enfant à Abraham, qui avait passé l'âge de la procréation, ainsi que sa femme, qui avait passé l'âge de procréer aussi, il n'avait pas voulu y croire. Un peu plus loin, au chapitre 18 de la Genèse, trois hommes étaient venus rendre visite à Abraham et Sarah. Parmi ces trois hommes, il y avait deux anges et le Seigneur Jésus-Christ dans une apparition avant son incarnation. C'est ce qu'on appelle des fois une apparition pré-incarnée avant l'incarnation de Jésus-Christ. Elle avait, pour montrer son hospitalité, préparé 3 mesures de farine. Ça, c'est donc au chapitre 18, verset 6. Sarah dit vite 3 mesures de fleurs de farine. La fleur de farine, c'était la meilleure farine qui soit. Et ça, c'est devenu un symbole d'hospitalité dans la culture arabe et la culture juive. C'est aussi quelque chose dont il est question. Elle dit non, j'ai pas ri. Et puis l'Éternel dit si, je sais. Et là, elle reconnaît qu'elle a ri. Mais elle ne peut pas se résoudre à croire à cet enfant qui arriverait dans son âge mûr, passé la maturité. Les deux anges continuent pour se rendre à Sodome et Gomorre. Et là, ils vont chez Lot. Et Lot, donc le neveu d'Abraham, demande à Dieu, il fait une espèce de marchandage. C'est plutôt Abraham qui fait ce marchandage avec Dieu, parce que Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorre parce que leur péché était énorme, péché si grave. Et Abraham commence à marchander en disant: s'il y avait 50 justes dans la ville, est-ce que tu épargnerais la ville? Et l'Éternel répond: oui, s'il y avait 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerais à tout le monde à cause d'eux. Et puis Abraham s'enhardit, il continue: s'il y en avait 45, est-ce que tu les épargnerais la ville? Oui. S'il y en avait 30, oui. S'il y en avait seulement 20, oui. S'il y en avait 10, est-ce que tu épargnerais la ville? L'Éternel dit: je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Puis Abraham s'arrête là. Nous, on a envie de demander: mais s'il n'y en avait qu'un seul, est-ce que Dieu épargnerait la ville? Et en fait, on a la réponse. Parce que plus loin, Pierre nous parle de Lot comme de Lot le juste, qui était tourmenté par le péché de Sodome et Gomorre. Et au chapitre 19, on va voir que les anges qui vont être pris à partie par les hommes qui veulent en abuser d'eux, Lot va même jusqu'à offrir ses 2 filles vierges pour ne pas violer la coutume d'hospitalité qui était sacrée. Mais ces anges vont faire sortir Lot de la ville. Ils vont faire sortir le juste de la ville. Ça nous dit 2 choses. Jésus s'est fait homme. Parmi les hommes, il y a un juste. Et Dieu ne veut pas détruire l'homme, parce qu'il y avait un juste. Il est prêt à sauver la race humaine. Deuxième chose, c'est un argument pour expliquer qu'en fait l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Dieu, dans son principe, ne va pas être injuste et punir ces justes qui sont justes parce qu'ils ont reçu la justice de Christ. Il va les enlever. C'est une des raisons pour lesquelles on peut préférer la vision de l'enlèvement avant la grande tribulation. Le péché de Sodome et Gomorre, ce n'était pas l'homosexualité en elle-même, c'était l'approbation officielle de l'homosexualité. Et dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire tout court, c'est toujours un indice de l'avancement d'une dégradation morale et souvent d'une destruction à venir de la civilisation en question. On l'a vu chez les Romains. Les mœurs, la moralité était devenue telle que les barbares n'ont eu aucun mal à enfoncer, à détruire la civilisation gréco-romaine. Dans le même passage, les promesses que Dieu a faites à Abraham ne sont pas, encore une fois, ne sont pas conditionnées sur le mérite des hommes. Et surtout, elles ne sont pas conditionnées par la loi, les 10 commandements que Moïse va recevoir plus tard dans l'Exode. Et une bonne chose, c'est que la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est pas une loi rétroactive. Encore une fois, les promesses que Dieu a faites ne sont pas d'un seul coup annulées parce qu'il y a la loi. Et Paul nous l'explique très bien dans Galates 3:17, ça c'est un passage à souligner dans votre Bible. Il dit, un testament déjà établi en bonne forme par Dieu, vous vous rappelez, Dieu avait suivi les coutumes de l'époque, il ne peut pas être annulé par une loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Encore une fois, Paul nous explique dans le Nouveau Testament, on en parle le dimanche, quels sont les buts de la loi. C'est de faire augmenter le péché, c'est de nous montrer que nous sommes incapables de suivre ces commandements, que nous avons besoin d'aide. Mais encore une fois, ces promesses, Dieu les a faites par amour pour l'homme. Au chapitre 16, on n'avait pas parlé, mais on a vu comment Abraham avait essayé d'aider Dieu pour l'accomplissement de la promesse d'un enfant qui allait venir entre lui et Sarah, lorsque lui avait 75 ans et Sarah 65 ans. Il s'était dit, et nous aussi, nous avons tendance des fois à vouloir aider Dieu. Et c'est toujours la source de beaucoup de problèmes. Il y avait une coutume à l'époque, c'était que si on pouvait pas, une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, son mari pouvait avoir un enfant avec une de ses servantes, et cet enfant était adopté par le mari et la femme, et il devenait en fait officiellement le fils de cette famille. Abraham, lorsqu'il avait désobéi à Dieu, qu'il était parti en Égypte, il avait ramené des captifs, et il y avait sans doute dans le nombre une servante qui s'appelait Agar, avec qui Sarah l'a encouragé à avoir un enfant. Cet enfant, c'était Ismaël. Ismaël qui est né de la chair, dans le sens où c'est l'homme qui a essayé d'aider Dieu, d'accomplir le plan de Dieu par ses propres moyens. Quelque part, Ismaël, qui est le père de la nation arabe, que Dieu veut bénir aussi, il était le fruit du manque de foi, le fruit de l'incrédulité. Plus tard, à l'âge de 100 ans, Sarah va avoir un fils, Isaac, qui veut dire éclat de rire, parce que quand on lui avait dit qu'elle aurait un enfant, elle avait éclaté de rire. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Et donc cet enfant, lui, au contraire, il est né de l'esprit, c'est l'enfant né, le fruit de la foi. Et lorsque, dans la Genèse 22, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, il confirme la foi d'Abraham. Il lui dit, prends donc ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays de Moria, sur le mont Moria, et offre-le en holocauste, c'est-à-dire en le faisant brûler complètement, comme un signe de consécration totale, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et quelque part, Abraham devait se demander, mais il me dit que c'est mon fils unique. Quelque part, Ishmaël, qui était né de la chair, ne comptait pas comme un enfant de la promesse. Le seul enfant qui appartenait vraiment à Abraham, qui faisait partie de la lignée qui allait amener le Messie, c'était Isaac. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on entend parler la première fois d'amour dans la Bible ? La Bible en parle avant Jean 3,16. C'est justement dans ce passage que je viens de vous lire, dans Genèse 22,2, lorsque Dieu demande à Abraham de prendre son fils unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est la première fois que le mot « amour » est mentionné. Et dans la Bible, il est une loi d'interprétation ou de lecture qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. La première fois que dans la Bible, une qualité, un concept est explicité, mentionné, c'est toujours très important de bien le connaître et de bien le comprendre là. Et le contexte de cet amour, c'est un père et un fils qui est prêt à offrir ce fils qu'il aime en sacrifice. Et bien sûr, ça nous rappelle Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On voit comment Dieu déjà annonçait son amour pour l'humanité, son fils. Il est plusieurs moments, il est présenté dans le Nouveau Testament comme celui qu'il aime à son baptême, sur le mont de la transfiguration. Voici mon fils bien-aimé, l'amour du Père pour son fils qui déborde et qui va bénir toute l'humanité. Lorsque Abraham et Isaac montent sur la montagne pour aller sacrifier le fils, Isaac n'est pas au courant qu'il s'agit de lui. Ils partent avec deux jeunes serviteurs qui restent en bas. Et au bout d'un moment, Isaac se dit, mais père, nous avons du bois, mais nous avons oublié le sacrifice. Où est le sacrifice ? Et Abraham, dans Genèse 22,8, répond, mon Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et en fait, on peut se dire, Dieu va se débrouiller pour trouver un agneau. Et c'est vrai que quand ils arrivent en haut, Abraham est prêt à sacrifier son fils. Un ange retient sa main et il se trouve que pris dans les buissons, par les cornes, il y a un bouquetin, qui va servir d'holocauste, qui va servir d'animal sacrifié. Et on peut penser, oui, Dieu a trouvé au dernier moment un substitut. Mais vraiment, le texte en fait dit que Dieu va s'offrir lui-même en sacrifice. Ça, c'est la promesse du Nouveau Testament. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui est offert par le Père pour racheter l'humanité entière. Le mont Moria, on pense que c'est le même mont que le mont Golgotha, où près de 2000 ans plus tard, Jésus allait être offert en sacrifice pour le péché du monde. Quand on lit les passages, encore une fois, il est très important, et c'est là que si vous avez un ordinateur, je vous encourage à prendre un programme de Bible, parce qu'on peut très rapidement faire des recherches de mots, on peut le faire avec des concordances en papier, c'est déjà formidable. Pour un mot, on voit tous les passages où ce mot est utilisé dans la Bible, c'est beaucoup plus vite encore avec l'ordinateur. Lorsqu'on regarde les passages qui font référence à ce texte, à cet épisode, on voit qu'en fait, dans l'esprit d'Abraham, Isaac était mort déjà. Parce que Abraham, on l'a expliqué dans Romains, il avait cru à Dieu et cette foi lui avait été comptée comme justice. Dieu avait accepté Abraham parce que, sur la base de sa foi, il savait que Dieu allait susciter une génération, une descendance qui allait bénir toutes les nations de la terre. Et lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, il n'est pas à dire, mais attends, Seigneur, il y a un problème. Non, lui, il avait déjà résolu le problème en disant que je vais tuer mon fils, comme Dieu me l'ordonne, mais Dieu va le ressusciter. Abraham avait déjà pensé que Dieu peut ressusciter ce sacrifice. Et bien sûr, c'est ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ le troisième jour. Pour Abraham, combien de temps est-ce que Isaac a été mort? Du moment où la promesse a été donnée jusqu'au retour au camp de base, il se passe aussi 3 jours. On voit que le même temps de mort pour Abraham, son fils, a été mort 3 jours. Pour le père, Jésus a été mort pendant 3 jours. C'est au bout du 3e jour qu'il est ressuscité. Encore un autre type, une autre préfiguration d'une réalité du Nouveau Testament. Dans la Genèse 24, Abraham va envoyer un serviteur chercher une fille pour son fils Isaac. Ce serviteur s'appelle Eliezer. Là, il est dans le chapitre 24, son nom n'est pas mentionné. On le mentionne dans le chapitre 15. Et Eliezer, dont le nom veut dire consolateur, c'est lui qui va aller chercher une épouse pour Isaac. Et quelque part, il est un type du Saint-Esprit qui vient chercher une épouse pour le Fils de Dieu. Nous savons que l'Église, c'est l'épouse promise à Jésus. Et que c'est le Saint-Esprit qui est maintenant sur terre et qui est en train de susciter une épouse à Christ. Lorsque nous avons vu l'Apocalypse, les noces de l'agneau, c'est les noces de Jésus-Christ avec son Église. Et encore une fois, les croyants sont appelés à une intimité, une relation d'intimité si étroite que je crois que Dieu nous a donné le mariage pour comprendre un peu quelle va être la nature, et ce sera encore bien plus fort, bien plus profond, bien plus intime. Mais Dieu va avoir une relation de la plus grande intimité avec chacun de nous, avec nous tous ensemble. C'est le mariage de Jésus-Christ avec l'épouse qu'est l'Église. Et Isaac, du moment où il est monté sur la montagne et qu'il redescende, on n'entend plus parler de lui jusqu'à ce qu'il rencontre son épouse. Et là aussi, dans la Bible, Jésus était mentionné lorsqu'il était présent, mais on va le revoir vraiment que lorsqu'il revient pour chercher son épouse. Et là encore, on voit la préfiguration, les caractères qui sont représentés par des personnages de l'Ancien Testament dans des réalités du Nouveau Testament. Encore une fois, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous comprenions. Ensuite, on parle de Ésaü et Jacob, les fils d'Isaac, qui allaient donner 2 nations. La femme d'Isaac, ça allait être Rebecca, qui est mentionnée donc au chapitre 24. Rebecca, donc la femme d'Isaac, qui va avoir 2 enfants qui vont bouger beaucoup, qui s'appellent Ésaü et Jacob. Ésaü est le premier-né, 2 jumeaux, mais Jacob va être celui qui va s'emparer du droit d'aînesse, et il va même aller jusqu'à aller se faire bénir solennellement par son père Isaac sur son lit de mort, en faisant croire qu'il est son frère. Jacob va trouver sa future épouse Rachel, la fille de Laban, qui va le tromper aussi. Et là, on voit comment le trompeur est trompé. Le premier film de l'histoire de l'humanité, c'était le film des Frères Lumière qui s'appelait « L'arroseur arrosé ». La Bible, ici, nous parle du trompeur qui est trompé. Jacob, dont le nom veut dire justement « trompeur » ou « celui qui ruse », il tombe sur quelqu'un de plus rusé que lui, qui va lui faire marier sa première fille, Léa, qui était un peu vieille fille, qui n'arrivait pas à marier. Et pendant 7 ans, Jacob va devoir travailler pour pouvoir avoir enfin le droit de demander la deuxième fille en mariage, Rachel, qu'il aimait de tout son cœur. Rachel, Jacob a travaillé pendant 7 ans, il est dit que ces 7 ans, ça s'est passé comme rien parce qu'il était tellement amoureux de Rachel. Il va y avoir des enfants par Léa, par les servantes de Léa et les servantes de Rachel, et enfin par Rachel. Un bon résumé, si vous le souhaitez, c'est la Genèse 35, les versets 22 à 26, qui fait la liste des patriarches, des chefs de tribus. Il y allait avoir 12 tribus d'Israël, ce qui était le nouveau nom de Jacob après qu'il ait combattu avec l'ange et qu'il ait prévalu, qu'il y avait un nouveau nom qui voulait dire louange de Dieu. Verset 22 du chapitre 35, ça c'est un passage à noter, encadré, parce que quand vous cherchez un peu les noms des 12 tribus, c'est un bon endroit. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Simon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, qui sont arrivés plus tard, Joseph et Benjamin, fils de Bila, qui était la servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui naquirent à Padam Aram. Le reste de la Genèse, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, qui va avoir 2 enfants qui vont s'appeler Éphraïm et Manassé. Là aussi, il va y avoir encore une bénédiction par Joseph, plutôt par Jacob. C'est intéressant, Joseph aimerait que ce soit Manassé, le premier-né, qui soit béni, mais Jacob intervertit les mains, et en fait il bénit, comme Dieu le veut, il va bénir Éphraïm. Et c'est souvent ce qui se passe dans la Bible, on voit que le premier-né ne garde pas son privilège, Dieu peut se servir du second-né. Il est souverain, on sait que Caïn n'a pas été béni, c'est Abel qui a été béni, puis Seth. Joseph, dont vous connaissez l'histoire, c'est une histoire très, très belle et très connue. Joseph qui avait fait ce rêve de voir le reste de sa famille s'agenouiller devant lui, plutôt lui rendre hommage. Il avait provoqué la colère de ses frères qui avaient décidé de le faire tuer. Puis au dernier moment, un des frères avait dit « Non, vendons-le à une caravane, non seulement on ne le tuera pas, mais on aura de l'argent en échange. » Joseph, parce qu'il il s'attachait à suivre Dieu de tout son cœur, de toute son énergie, on le voit qui irrésistiblement monte dans les échelons du gouvernement en Égypte. Prisonnier, il se montre... très sérieux, il travaille du mieux qu'il peut. Chaque fois qu'il a un travail qui lui est confié, il le fait de son mieux. Et ça, c'est une recette pour nous aussi. On n'a pas à trouver qu'il y a des travaux qui sont trop bas pour nous. Quelles que soient nos circonstances, Dieu veut que nous fassions de notre mieux. Que ce soit pour balayer l'exemple de Chuck Smith qui a été utilisé pour le mouvement de Calvary Chapel, c'est un personnage qui pourrait se faire servir, mais il est le premier à aller vider une poubelle, le premier à donner un coup de balai s'il y a quelque chose à faire. Et ça doit être une attitude dans notre personnalité qui devienne quelque chose de très profond. Pas d'honneur, chercher toujours à servir, à être utilisé. Je parlais avec quelqu'un qui rouspétait parce que sur son nouveau travail, on lui demandait de faire des travaux un peu de balayage. Et je lui dis, si tu le fais avec enthousiasme, ça ne viendra plus jamais à l'idée de quelqu'un de te brimer en te donnant ce travail. Et dans tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour servir Dieu. Et on voit la richesse. Joseph est l'exemple même. Dieu le bénit. Et on voit comment il obtient la faveur des hommes. Il finit premier ministre de l'Égypte. C'est lui qui a cette idée, qui peut interpréter les rêves, qui interprète le rêve du pharaon. Il va y avoir cette période de vaches grasses. Puis cette période de vache maigre, des expressions qui sont rentrées dans le langage courant pour dire qu'il allait avoir des récoltes abondantes et puis a priori une famine. Mais en Égypte, parce que Joseph était inspiré par Dieu, qu'il voulait servir Dieu et servir les gens qu'il était supposé servir, il va mettre de côté, il va mettre, faire des réserves de grains qui vont permettre à la famille de Jacob qui va venir en Égypte de survivre. Encore une fois, on voit comment Dieu préserve la race des Juifs pour amener le Messie qui doit bénir l'humanité. Là encore, Joseph, c'est un exemple, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Il a été rejeté par ses frères. C'est ce qui a été le cas de Jésus, qui a été rejeté par les Juifs. Il a souffert injustement, mais en définitive, c'est par lui que vient le salut. On parle souvent, dans l'école pour les petits, le dimanche, on fait dessiner la fameuse tunique multicolore de Joseph. Et on pense que ça devait être une... Elle était si belle parce que c'est ça qui rendait ses frères jaloux. En fait le mot de multicolore, ça peut désigner... C'est pas clair, ça pourrait simplement dire que c'était une tunique d'une seule pièce. Et ça, si vous connaissez un peu le Nouveau Testament, ça doit vous rappeler... que les soldats qui crucifièrent Jésus jouaient au dé. Les vêtements, il avait une tunique d'une seule pièce aussi. Et on voit, en fait, lorsqu'on prend le temps de faire un parallèle entre Joseph, et si vous l'avez jamais fait, ça peut être une façon de méditer un peu sur Jésus, de voir l'histoire de Joseph et voir comment elle s'applique à l'histoire de Jésus-Christ lui-même. Il a cette phrase très belle à laquelle nous allons terminer, c'est que lorsqu'il parle, l'histoire montre que les frères de Joseph ne le reconnaissent qu'au dernier moment. Il joue un peu avec eux, il les fait arrêter en prétendant avoir mis des... Il met des choses dans leur sac lorsqu'ils partent, et il les fait arrêter en disant qu'ils ont voulu le voler. Et puis... au dernier moment, il s'identifie. Je suis Joseph, votre frère. C'est vrai que depuis, il avait changé. Il était devenu un homme. Il avait sans doute des vêtements de style égyptien. Et de plus, ses frères étaient à mille lieues de penser que leur frère pouvait être ce premier ministre du pharaon, cet homme responsable du gouvernement qui leur permettait de survivre. Et ses frères, lorsqu'ils le reconnaissent, sont d'abord terrifiés parce qu'ils ont peur qu'il se venge d'eux. Mais verset 20 du chapitre 50, Joseph dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Mais maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Et bien sûr, on peut voir Jésus qui dit demander à son Père de pardonner ceux-là même qui le crucifient en disant « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » et qui en fait mourait pour le bien de l'humanité pécheresse, l'humanité qui était en rébellion contre lui. Et un écho de cette promesse de Joseph, que tout, même si c'était voulu en mal, Dieu pouvait le transformer en bien. On le voit dans Romains 8:28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est ce que quelqu'un appelait, ce verset 8:28, un oreiller pour une âme en peine. Toutes les épreuves que vous pouvez vivre dans votre vie, que vous devez faire face, si vous aimez Dieu, vous pouvez être sûr que ces épreuves, il les tourne en quelque chose de bon, de beau. Et son fils est comme le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ça, c'est l'image de Joseph qui bénit ses frères. Jésus veut nous bénir, veut me bénir, veut vous bénir. C'est les leçons que Paul voulait que nous retenions, entre autres, parce que Paul a pris le temps d'expliquer toutes ces leçons. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de Romains, de l'épître de Paul aux Galates, on revient sans cesse à la Genèse. Voilà, je vous invite à la lire, si vous ne l'avez pas lue. Prenez le temps de lire en essayant de voir toujours une question que vous pouvez vous poser, c'est où est Jésus ? Dans n'importe quel passage de la Bible, est-ce que c'est un rapport avec Jésus ? Et votre lecture de la Bible va devenir passionnante. Voilà, j'aimerais arrêter là et vous donner, si vous voulez, quelques minutes, si vous avez des questions, si je peux répondre ou vous indiquer des éléments de réponse. Est-ce qu'il y en a qui... Oui, Maxime. Et c'est bien. Alors, dans la Genèse, le passage... Alors, il est vrai que cette terre n'a jamais été donnée aux Palestiniens, elle n'a jamais été donnée aux Irakiens, elle a été donnée, promise au peuple juif. Alors, je ne veux pas dire que maintenant, il faut au nom de cette promesse exterminer les Palestiniens, les exclure, mais Dieu décide des choses et souverainement, lorsqu'il va revenir, il y aura un règne de 1000 ans et le territoire d'Israël s'étendra de la mer Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. Et en fait, la Bible nous montre que les problèmes, le fait que la terre n'a jamais vraiment appartenu à Israël, c'est pas parce que Dieu n'a pas voulu, c'est parce que Israël a été désobéissant. Israël n'a pas appliqué, il y a eu des compromis, ils sont sombrés dans l'idolâtrie. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les Palestiniens, les Irakiens, Dieu aime tous les hommes. Et loin de moi l'idée de dire que Dieu veut persécuter les Palestiniens. Nous avons des frères chrétiens palestiniens, des Irakiens chrétiens. Encore une fois, Dieu veut bénir tous les hommes. Et ce qu'il rejette, c'est Satan et ses œuvres qui veulent dérouter les nazis, par exemple, c'était une façon d'attaquer le peuple de Dieu, même si c'était après que Jésus soit arrivé, c'était aussi une attaque d'origine satanique. Encore une fois, il y a un combat qui se passe dans les lieux célestes, un combat spirituel qui est bien plus violent que tout ce qu'on peut voir sur terre. Et c'est ce combat pour lequel nous avons des armes spirituelles, la prière. La Bible nous invite à prier pour la paix de Jérusalem. La Bible nous invite pour...